Est-ce que vous avez des liens avec l'extérieur?
Si, alors...
Parce qu'il y a toute une mobilisation de soutien à Paris.
À Paris, oui. On avait effectivement des liens par l'intermédiaire de nos parents et des avocats. Disons que on ne demandait pas, on n'a pas demandé à un militant connu de venir de demander une permission pour nous voir, non. Mais par l'intermédiaire des avocats, on était en contact
avec
toi.
Comment ça se passait?
La rencontre avec...
Les échanges
avec nos militants. Bon, alors là, c'est un chapitre qui faut... Je pense que, d'abord, quand on est victime d'une répression comme ça, disons, c'est prévu et en même temps, c'est pas prévu. Ça arrive toujours plus vite qu'on ne le pense. On sait qu'on va... Il y aura une répression. On sait que ça arrivera. Mais le jour où ça arrive, on se dit, mais c'est arrivé trop vite. C'est arrivé trop vite parce qu'effectivement, on n'a pas eu le temps de préparer un certain nombre de choses. Bon, y compris le fait de préparer la répression judiciaire. Bon, mais d'une manière générale, on n'a pas le temps. Alors, quand on a quand même, nous sommes arrêtés à Paris, on a des relations. On connaît les camarades qui sont membres du GONG, et qui ne sont pas arrêtés, puisqu'ils ne sont pas en prison. Donc, ou par l'intermédiaire d'avocats, ou par l'intermédiaire de nos parents, si c'est une mission verbale, un message verbal, on peut le dire à des parents, et les parents, on leur dira qu'on va remettre à tel avocat un message écrit. Voici. Normalement, si c'est les prisonniers de droit commun, on n'a pas le droit de livrer des messages comme ça. Ou alors, il faudrait qu'un surveillant prenne lecture. Nous, au début, ils ont tenté d'agir de cette manière. On les avait effectivement dit non, on n'accepte pas ça. On est des prisonniers politiques. Nous nous rencontrons, nous discutons, nous avons une opinion. Il faut que ceux de l'extérieur connaissent cette opinion. Donc, nos avocats, nous allons leur remettre un certain nombre de missions écrites à remettre à nos avocats. Ils le savaient. Et finalement, ils ont accepté. Ils ont accepté. Enfin, je crois que le garde des Sceaux, ils ont fait demander au garde des Sceaux qui finalement a accepté. Alors, autrement, ce qui se passait, qui était peut-être plus... Ce sont les échanges entre le juge d'instruction et nous, les prisonniers. Il y a des moments où ça se passait bien, sans, normalement, quoi. Il pose des questions, on répond. Il y a des moments où on sent très bien qu'il n'a pas l'information, mais qu'il cherche à avoir l'information, il cherche à ce que nous disions quelque chose pour qu'il puisse le mettre au dossier. Et alors là, on envoyait balader, et nos avocats nous soutenaient, et il arrivait quelquefois, on arrêtait carrément la session d'instruction, et on se levait, l'avocat partait, moi je dis je ne peux pas rester, discuter sans mon avocat, je me lève aussi, et je suis avocat, et finalement il était obligé d'annuler cette séance, et de convoquer pour une autre séance, et dans cette autre séance, il ne posait pas la question de manière vicieuse comme il l'a posée dans la séance précédente. Il posait beaucoup plus clair et nous, on répondait beaucoup plus clair aussi. Il y a des moments où il faut dire un certain nombre de choses. Quand alors, ils comprennent très bien. Parce que quand on veut dénoncer le colonialisme, on ne veut pas dénoncer le colonialisme sans le dire. C'est pas par le regard qu'on dénonce le colonialisme. Il faut dire un certain nombre de choses, donner un certain nombre d'exemples, et alors, évidemment, ils sont emmerdés. Le juge est emmerdé parce que c'est pas ce qu'il attend. Avec ça, il pourra pas effectivement faire son plaidoyer qu'ils font là, avec un gros livre qu'ils vous donnent quelque temps avant le procès, en disant voilà ce que. Le résumé de toutes les séances d'instruction. Mais, par exemple,